Voilà, ils sont venus, ils sont tous là, c'est toute une équipe du lycée Montebello de Lille, donc ils sont élèves avec leur professeur Catherine Baudet. Bonjour Catherine.
Bonjour René.
Donc, comme chaque année, j'allais dire, j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour une restitution de travaux de toute une année.
Oui, c'est ça. De toute une année, en fait, de deux périodes d'environ 6 semaines de travail. De 6, en fait, à chaque fois, les deux productions qu'on va entendre, c'est à peu près... 10-12 heures de travail.
D'accord. Donc autour de la table, toute une équipe qu'on va présenter. Oui. Allez-y.
Moi, je m'appelle Vouloir. J'ai 16 ans et je suis au lycée Montebello.
Moi, c'est Sarah. J'ai 16 ans et je suis comme Vouloir au lycée Montebello.
Très bien.
Moi, c'est Zacharia. Je suis au lycée Montebello et j'ai 15 ans.
Moi, je m'appelle Tiara. J'ai 16 ans et je suis au lycée Montebello à Lille aussi.
Très bien.
Bonjour, moi je m'appelle Bouteflika Dezel, je suis au lycée Montebello, j'ai 15 ans.
D'accord.
Bonjour René, je m'appelle Alexandre Routier et j'ai 15 ans.
Voilà, donc vous avez tous participé à des éléments, des parties de cette émission. On va peut-être présenter le cadre, Catherine Baudet.
Oui, le cadre, c'est ce qu'on appelle accompagnement personnalisé dans les lycées. Il s'agit de 2 heures... qui sont consacrés à, comme son nom l'indique, un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler en plus petits groupes pour répondre au mieux aux besoins des élèves. Et donc sur une séquence, enfin entre vacances, vous c'était entre les vacances de février et de Pâques, ils ont travaillé sur des lectures à voix haute pour certains. Et puis un autre groupe a travaillé, lui, sur la construction d'interviews fictives de personnages historiques rencontrés pendant l'année, de seconde en histoire, parce que je suis prof d'histoire.
Voilà. Donc on va démarrer peut-être la première séquence.
Elle a
un thème bien précis.
C'est la conquête espagnole de l'Amérique, un choc de civilisation. Donc l'idée, c'était de travailler sur la lecture à voix haute, mais sur tout type de texte, avec des points de vue différents, puisqu'on a à la fois, c'est la conquête espagnole de l'Amérique, mais avec à la fois le point de vue des colonisateurs, mais aussi le point de vue des colonisés. Et on a des points de vue qui sont complaisants vis-à-vis de la colonisation, alors que d'autres la contestent. Donc c'est une façon aussi de travailler le document d'histoire et sa source.
Voilà. Donc avec un environnement sonore qu'on présentera après d'ailleurs.
Voilà, que les élèves ont travaillé avec le
création
logiciel Audacity.
Maison, voilà. Si on peut dire.
Seigneur, sachant que vous aurez du plaisir à prendre la victoire que le Seigneur m'a donnée dans mon voyage. Je vous écris cette lettre pour que vous sachiez que je suis arrivée aux Indes en 20 jours, avec la flotte que les très illustres rois et reines, nos seigneurs, m'avaient confiée. J'y ai découvert un très grand nombre d'îles, habitées par une population infinie. J'ai pris possession de toutes ces îles, au nom de leur Altesse par voie de héros et avec la bannière royale déployée, sans rencontrer aucune contradiction. J'ai mis le nom de San Salvador à la première île que j'ai découverte, en l'honneur de sa divine majesté, qui a fait le miracle de permettre tout cela. Les Indiens l'appelaient Guanahani. J'ai appelé la deuxième île Sainte-Marie de la Conception, la troisième l'île Fernandine, la quatrième l'Isabelle, la cinquième île Juana, et ainsi de suite. J'ai donné un nom nouveau à chacune d'elles. L'île espagnole est une véritable merveille. Les chaînes de montagnes et les pics aussi bien que les vallées et les campagnes. La terre est si belle et si grasse qu'elle semble également appropriée pour semer et cultiver, pour élever n'importe quelle classe de détail, ou pour construire des villes et des villages.
Moctezuma, empereur de Tenochtitlan, Mexico, au moment de l'arrivée de Cortés, demande que les ambassadeurs qu'il a envoyés au-devant des Espagnols lui décrivent ceci. Voici leur récit. De tous côtés, leurs corps sont emmitouflés. On ne voit paraître que leur visage. Il est blanc, blanc comme s'il était de chaux. Ils ont les cheveux jaunes, bien que certains les aient noirs. Longue est leur barbe. Leur moustache est également jaune. Ils chevauchent montés sur leur flanc de leur cerf. Ainsi juchés, ils marchent au niveau des toits. En outre, leurs chiens sont énormes. Ils ont les oreilles frémissantes et aplaties, de grandes queues pendantes. Ils ont des yeux qui épandent du feu. Ils ne cessent de cracher des étincelles. Leurs yeux sont jaunes, d'un jaune intense.
Son visage était très large, les yeux énormes et épouvantables. Tout son corps, y compris la tête, était recouvert de pierreries, d'or, de perles adhérant à la divinité au moyen d'une colle, faite avec des racines farineuses. Le corps était ceint de grands serpents, fabriqués avec de l'or et des pierres précieuses. D'une main, il tenait un arc, de l'autre, des flèches. À son cou pendaient des cœurs d'indiens, trois cœurs d'indiens, sacrifiés ce jour même et brûlés. Les murs et le parquet de cet oratoire étaient à ce point baignés par le sang qu'il s'effligeait et qui s'en exhalait d'une odeur repoussante. « Monseigneur, dit alors le général en souriant, je ne comprends pas que vous, un grand prince et un homme fort sage, vous n'ayez pas entrevu dans vos réflexions que vos idoles ne sont pas des dieux, mais des objets maudits qui se nomment démons. Faites-moi la grâce de trouver bon que j'érige une croix sur le haut de cette tour, et que, dans la patrie même de cet oratoire, nous construisions un pavillon où s'élèvera l'image de Notre-Dame. Moctezuma répondit à moitié en colère. Nos dieux, nous les tenons pour de bons, ce sont eux qui nous donnent la santé, les pluies, les bonnes récoltes, les orages, les victoires et tout ce que nous désirions. Je vous prie qu'ils ne disent plus qu'un mot qui ne soit en leur honneur. Notre général, l'ayant entendu et voyant son émotion, ne crut pas devoir répondre.
Au sommet de ce temple maudit, on était si haut que l'on dominait tout parfaitement. Et de là-haut, nous vîmes les trois chaussées qui entrent à Mexico. Nous voyons l'aqueduc qui venait de Chapultepec pour fournir la ville en eau douce. En arrivant à la grande place de Mexico, nous tombâmes en admiration devant l'immense quantité de monde et de marchandises qui s'y trouvaient. Chaque sorte de marchandise était à part dans les locaux qui lui étaient assignés. Commençons par les marchands d'or, d'argent, de pierres précieuses, de plumes, d'étoffes, de broderies et d'autres produits. D'autres marchands se trouvaient là, vendant des étoffes ordinaires en coton, ainsi que de divers ouvrages en fil tordu. On y voyait aussi des marchands de cacao. Il y avait encore le département de la poterie, faite de mille façons, depuis les jarres d'une taille gigantesque jusqu'aux petits pots. Puis les esclaves, hommes et femmes, la plupart étaient attachés par le cou à de longues perches, formant collier pour qu'ils ne puissent pas prendre la fuite. Dans cette grande ville, les maisons ne communiquaient avec le dehors qu'avec des petits ponts-levis ou par des bateaux. Elles étaient construites avec des toits en terrasse. Nous voyons aussi remarquer les temples. Ils sont bâtis en forme de tours et de forteresses, et d'autres élevés sur la chaussée. Ils sont blanchis à la chaux et extraordinairement éclatants. Le bruit et le tumulte du marché pouvaient s'entendre à presque une lieue.
Qu'en est-il tout d'abord des hommes ? Nous en trouvâmes une telle multitude dans ces régions qu'on ne pourrait à peine les dénombrer. Comme on lit dans l'Apocalypse, ces hommes, je les dirais doux et sociables. Tous, de l'un et l'autre sexe, se déplacent nus sans couvrir aucune partie de leur corps et tels qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, ils vont jusqu'à leur mort. ces terres étaient remplies de gens, on aurait dit que Dieu avait mis dans ces pays la majeure partie du lignage humain. Tous ces peuples finis, Dieu les avait créés, les plus simples, sans méchanceté ni hypocrisie, les plus obéissants, fidèles à leur chef naturel, comme aux chrétiens qu'ils durent servir, les plus humbles, les plus patients, les plus pacifiques, dépourvus de rancune, d'esprit querelleur, de bévue et de vengeance. Ce sont donc par là même les races les plus délicates, fragiles et tendres, et qui peuvent le moins souffrir les gros travaux, et qui meurent le plus facilement de quelques maladies. Il n'y a pas chez nous de fils de princes et de seigneurs, élevés dans le luxe et gâtés, qui soient plus délicats que ces Indiens, bien que ces peuples soient pauvres et qu'ils ne possèdent et ne veulent posséder de biens temporels, ce qui leur évite la superbe, l'ambition, la jalousie. Leur nourriture est telle que celle des saints-pères dans le désert ne me paraît pas avoir été plus frugale. Leurs vêtements communs sont en cuir, quelques-uns ont des manteaux de coton. Beaucoup dorment dans la nature, dans des filets suspendus, que dans la langue de l'île d'Espagnola, on appelle hamac. Les Indiens ont une intelligence neuve, mais vive, ils sont très capables et dociles à toute bonne doctrine, tout à fait aptes à recevoir notre sainte foi catholique et à pratiquer les vertus chrétiennes. C'est parmi ces 12 brebis, ainsi dotées par le Créateur des qualités que j'ai dites, que s'installèrent les Espagnols. Dès qu'ils les connurent, ceux-ci se comportèrent comme des loups et des tigres et des lions, qu'on aurait dit affamés depuis des jours. Et ils n'ont rien fait depuis 40 ans, et plus qu'ils sont là, sinon les tuer, les faire souffrir, les affliger, les tourmenter par des méthodes cruelles extraordinaires, nouvelles et variées, qu'on n'avait jamais vues ni entendu parler.
Notre monde vient d'en trouver un autre, et qui peut affirmer que c'est le dernier, puisque les démons, les sibylles et nous-mêmes avons ignoré celui-ci jusqu'à aujourd'hui. Aussi grand, rempli et fourni que lui, toutefois si nouveau et si enfant qu'on lui apprend encore son ABC. Il n'y a pas 50 ans, il ne connaissait ni les lettres, ni les poids, ni les mesures, ni les vêtements, ni les blés, ni les vignes. J'ai bien peur que nous ayons fort raté son déclin et sa ruine par notre contagion et que nous lui ayons bien cher vendu nos opinions et nos arts. C'était un monde enfant. Et pourtant, nous ne l'avons pas dompté et soumis à notre discipline par notre valeur et notre force naturelle. Nous ne l'avons pas séduit par notre justice ou notre bonté, ni subjugué par notre magnanimité. La plupart de leurs réponses et des négociations faites avec eux témoignent qu'ils ne nous devaient rien en clarté d'esprit naturel et en pertinence.
À l'instant même où l'encre de ma plume noircit ses feuillets orphelins, le soleil décroît, jetant sur les cieux d'amples tentures safranées. Notre soleil saigne, profondément meurtri. C'est ici le brûlant signe du déclin de notre grande civilisation. Mes frères, héritiers de la gloire inca, peuple ardent et fier, attestez de ces mots, soyez témoins de mes peines. La dernière lune en a été le berceau. J'ai vu mon peuple tomber, alors que les clartés de l'eau perçaient l'horizon de Nacre, nous avons entendu le sifflement du métal et les effluves âcres qu'il dégageait. Ils étaient là, ces grands visages pâles et menaçants, porteurs du vice et de la maladie. Nous ne comprîmes pas. Juchés sur d'imposants animaux bruns, ils se dirigeaient vers nous à une vitesse impressionnante. Était-ce leur dieu qu'ils montaient? Les utilisaient-ils pour répandre la mort? Si tel était le cas, je me devais de mettre un terme à ce massacre. Mes hommes, mes frères, mon peuple, tous tombés, un à un, faisant ruisseler sur la terre, notre mère, des cascades pourpres. J'insistais pour les rejoindre dignement dans la mort, mais les visages pâles me désiraient vifs. J'étais leur ultime récompense. Ces lois barbares s'appliquaient-elles à leur contrée reculée? Tuait-on tous les peuples hébétés que l'on découvrait? Ils m'ont enfermé ici, chaque jour tuant, pillant, brûlant et allumant par là même l'ire flamboyante de nos dieux qui empourpaient les cieux. Sans doute me réserve-t-il un sort terrible, mais rien, non rien n'est pire que la captivité. Ces hommes ont violé nos femmes, brûlé nos terres, annihilé notre civilisation et reconstruit sur ses cendres un monde perverti par le métal jaune si abondant en nos souterrains. Nous n'y touchons pas, il est le produit d'une terre riche, saine. Aujourd'hui, mes frères travaillent nuit et jour dans ces tombeaux arides pour en extraire l'insignifiante paillette. Ils suffoquent pour servir les Blancs. Ceux-ci ont également apporté dans leurs étoffes la maladie qui me ronge depuis maintenant 6 jours. En même temps que le soleil, c'est mon cœur qui pleure des larmes de sang. C'en est fini, tout est fini. Et pourtant, mes frères, pour vous tout commence. Gardez en votre cœur l'espoir de vos ancêtres. Naissez, vivez, mourez, mais guettez le jour où le soleil étendra ses vives lueurs sur vos têtes. Ce jour-là, le deuil de nos dieux aura pris fin et il sera temps pour vous d'affirmer votre place. Votre frère, à jamais dans vos cœurs, Tupac Amaru.
Voilà, voilà. Donc, de retour en studio avec les élèves du lycée Montebello de Lille pour donc un petit débriefing sur cette première partie. Catherine Baudet, déjà, peut-être
Oui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'élèves présents de ce groupe-là.
Mais réflexion, j'ai entendu pendant la diffusion que Vouloir nous disait, enfin disait, qu'elle aurait bien voulu avoir le texte de la fin, c'est ça?
Oui, et parce qu'en fait, je le trouvais très joli, très beau, très révélateur. Donc, ouais, il m'a plu.
Mmh. Toi, tu as participé à la deuxième partie?
Oui.
Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as vécu les choses, la mise en place de ce projet pour toi au lycée?
En fait, moi, dans la deuxième partie, j'ai fait le texte de Moctezuma. Oui. Comment ils vivaient en gros
Tu Tu te rappelles de l'histoire de Montezuma? Tu peux nous raconter en quelques mots?
Oui, bah, en gros, c'était l'empereur aztèque dans les années 1500. Et bah, au moment où les colons espagnols sont arrivés, ils sont restés une bonne vingtaine d'années en bon terme. Et au bout d'un moment, ils voulaient assiéger la ville, enfin la capitale. Et donc du coup, ils ont enlevé l'empereur, donc Moctezuma, et ils l'ont assassiné en 1521. Mm-hmm. Pour avoir le dessus sur le peuple aztèque.
Tu t'es senti un peu concerné par cette histoire, de l'histoire?
Je sais pas comment dire. On va dire oui. Parce que ça m'a fait un petit peu penser en gros à l'esclavagisme. Donc du coup, comme je suis noire, forcément ça m'a fait quelque chose. Et à travers ce personnage de Moctezuma, j'ai un peu mis... J'ai mis des mots sur ce que je ressentais au fond de moi, entre guillemets. Donc oui.
Voilà, on va les ressentir dans quelques instants. Quelqu'un veut intervenir sur cette partie, sur cette production? Peut-être oui, vas-y.
Alors, avec notre professeur d'histoire, le principe c'était de créer des interviews sur des personnages politiques que nous avions vus cette année en cours d'histoire géo. Et vraiment qu'il y ait un décalage entre le personnage historique et le journaliste qui devait être plus actuel.
Très bien. Une autre intervention? On peut peut-être maintenant demander à Alexandre, qui a participé donc à l'environnement sonore de ce qu'on va entendre maintenant.
Oui, tout à fait.
Comment ça s'est passé pour toi, à partir du moment où je t'ai fait la commande?
Alors, eh bien, je me suis un peu inspiré de musique atypique de l'époque, et j'en ai fait quelques compositions qui pourraient plaire, et ça a fonctionné, ça a bien plu et je suis content. Donc avec les bandes originales de films par exemple, on a pu trouver quelque chose de sympa, puis après un peu d'inspiration, retrouver un peu de son de guitare, des sons qui puissent plaire, qui nous plongent un peu dans l'époque, et après quelques petites heures de travail, oui, on avait un bon résultat sonore, puis une bonne petite production à ajouter au projet.
Voilà, c'est ce qu'on va entendre. On en discutera après, puis si tu veux, on présentera ton actualité, on va dire, musicale.
Avec grand plaisir.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM.
Bonjour, je suis en compagnie du célèbre Périclès, grand stratège d'Athènes.
Bonjour, jeune journaliste et citoyen.
Alors, j'ai quelques questions à vous poser.
D'accord, pose tes questions.
Pour commencer, j'aimerais connaître la date de votre naissance.
Je suis né à Athènes vers 495 avant Jésus-Christ, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer.
Haha, pouvez-vous parler de votre famille et de vos proches?
Bien évidemment. Mon père est Xanthippe, le vainqueur de la bataille de Mycale. Et je suis le neveu de Clisthène, qui guida Athènes à la démocratie.
Une minute. Quelles sont ces espèces de bâtiments au sommet de cette colline?
Eh bien, tous ces bâtiments constituent l'acropole. Et le plus imposant, c'est le Parthénon.
Cela m'intrigue, mais en quoi consiste-t-il?
Pour tout vous dire, c'est à la fois un temple pour la déesse Athéna, mais aussi un coffre renfermant mes trésors de guerre.
Tous ces travaux ont dû vous coûter extrêmement cher.
Croyez-moi, vu les trésors que renferme ce temple, je n'ai pas eu besoin de compter. Et les citoyens d'Athènes ont également contribué au financement.
Et quel programme avez-vous lancé pour les grands travaux?
On acheva ainsi les cales et les arsenaux du Pirée. On y construit la halle au blé. On grossit la flotte qui passa de 200 à 300 trières. On édifia les longs murs pour joindre la ville au Pirée.
Merci Périclès d'avoir répondu à mes questions. J'espère vous revoir bientôt.
Je vous en prie. Au revoir.
Bonjour à tous, nous avons l'honneur d'interviewer l'empereur Claude, aujourd'hui devant le Sénat. Nous allons à sa rencontre. Bonjour Monseigneur, merci de nous recevoir.
Je vous en prie.
Comment vous sentez-vous après cette réforme?
Écoutez, je suis très heureux et très fier d'avoir donné la citoyenneté à toutes ces cités.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela en 48?
Moi-même, je suis de Lugdunum, pas de Rome. Et j'ai pourtant la citoyenneté romaine. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire de même pour tout le monde? Est-ce la seule raison? Également, j'ai voulu faire cela pour la paix, et pour éviter les tensions, notamment entre Gaulois et Romains. Mais je voulais aussi fidéliser les Gaulois pour éviter de nouvelles révoltes, et pour les remercier de leur aide lors de la bataille face aux Germains.
Était-ce aussi pour des raisons économiques?
Bien évidemment, cela permet de favoriser les échanges et le commerce.
Merci, ce fut un honneur de vous rencontrer.
Au revoir.
Au revoir.
Je me trouve actuellement aux portes de Constantinople. Nous sommes le 29 mai 1453, il est 1h30 du matin et Mehmet II, le 7e sultan de l'Empire ottoman, vient de lancer l'assaut contre l'empereur romain Constantin. C'est la panique! Mehmet? Mehmet! Avez-vous une minute à nous accorder?
Oui, merhaba, bonjour.
Merci, c'est gentil. Alors, première question à vous poser. Pourquoi voulez-vous prendre la ville de Constantinople?
Car je veux que Constantinople devienne la capitale de mon immense empire. Cette ville abrite la magnifique église Sainte-Sophie. Je veux en faire une majestueuse mosquée.
De quelle manière allez-vous vous y prendre pour lancer l'assaut?
Je tue tout ce qui bouge et je prends tout ce qui leur appartient, même leurs femmes.
Comment va votre armée? Êtes-vous prêt?
Oui, mes hommes sont solides et forts. On a déjà tué beaucoup de monde, et les ennemis sont fatigués à cause de notre siège.
Et vous, comment allez-vous?
Moi, ça va. La douleur, c'est dans la tête.
Et si vous arrivez à prendre cette ville de Constantinople, quelle sera la suite?
Je veux conquérir le monde. Bon, je dois y aller. Le combat m'appelle.
Bon courage, Mehmet II. On est de tout cœur avec vous. Voilà ce que j'avais à dire sur Mehmet II. À vous les studios.
Bonjour à tous. Nous sommes le 12 octobre 1492. Christophe Colomb vient de débarquer sur la plage de San Salvador. Vite, il est là. Allons-y. Christophe Colomb, par ici. Pas trop fatigué?
Je suis épuisée par le voyage. J'ai très envie de dormir. Ce sable paraît parfait pour dormir.
Pas trop long, le voyage?
Éprouvant. Le voyage a duré environ 3 mois.
Y a-t-il eu des mutineries lors du voyage?
Non, mais nous étions tous inquiets face à la durée de l'expédition. Mon équipage perdait patience.
Il y a donc eu des révoltes?
J'ai dû cacher la vérité à mon équipage. Nous n'avions pas vu la terre depuis des jours.
Mais qui a perçu en premier cette nouvelle terre?
C'est mon compagnon d'équipage, Rodrigo de Triana. En débarquant, il a été très surpris de voir des gens nus.
Et maintenant, quels sont vos projets? Désirez-vous rester à San Salvador?
Non, j'ai hâte de rentrer chez moi en Espagne et embrasser mon épouse, Philippa Moniz.
Repartirez-vous immédiatement?
Non, je dois présenter mes respects à mes souverains, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, et leur apporter leurs richesses que j'ai amassées.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. À bientôt.
Bonjour Vasco de Gama.
Bonjour.
Vous êtes un navigateur portugais?
Oui, c'est cela.
Pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons actuellement?
Évidemment. Nous sommes à bord du São Gabriel, entre l'océan Atlantique et l'océan Indien.
Vous êtes sur le point de contourner le Cap de Bonne-Espérance, situé au sud de l'Afrique, afin de rejoindre l'Inde. Quel effet ça fait?
Oui, nous allons enfin contourner ce cap pour la première fois. Cela nous réjouit, car nous avions démarré cette expédition dans le but de contourner l'Afrique par le sud.
Vous êtes le premier à le traverser, mais pas le premier à le découvrir. Je me trompe?
Non, vous avez totalement raison. C'est mon collègue, Bartolomeo Dias, qui l'a découvert et qui le nomma Cap des Tempêtes.
Comment se fait-il que le nom de ce cap ait changé?
C'est le roi du Portugal, Jean II, qui a décidé de changer le nom et qui l'a nommé Cap de Bonne-Espérance.
Savez-vous pourquoi l'a-t-il nommé ainsi?
Je n'en ai aucune idée, désolé.
Prenez-vous conscience que vous êtes désormais l'un des plus grands navigateurs ?
Oui, sûrement. Je pense même que je serai l'un des plus grands de tous les temps.
Je le pense aussi. Et pourquoi avez-vous décidé de passer par cette route ?
Nous avons décidé cela car la route par l'Orient est aujourd'hui bloquée par les musulmans.
D'accord. Merci de nous avoir accordé ce court instant. Au revoir et bonne route.
Merci.
Bonjour, je suis avec Hernán Cortés qui vient de rencontrer Moctezuma, empereur aztèque. Nous sommes en 1519. Bonjour monsieur Cortés, merci de nous accorder quelques minutes de votre temps afin de vous poser quelques questions.
Bonjour à vous, oui je vous en prie.
Vous semblez émerveillé par ce peuple.
Oui bien sûr, je suis fasciné par ce peuple, cette culture. Le grand Moctezuma possède de nombreuses richesses, or, bijoux, trésors, son empire est des plus impressionnants. Il domine toute l'Amérique centrale. Je m'attendais à trouver une civilisation sauvage, peu évoluée. Or, je me trompais. Regardez les pyramides, cette ville de Kano. Les hommes y ont construit de nombreux jardins flottants pour y cultiver les fameux Chinampas. Ils ont de véritables autoroutes qui quadrillent tout le territoire.
Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec l'empereur Moctezuma, empereur aztèque ?
J'étais accueilli comme un dieu. Une foule nombreuse était présente pour nous accueillir. Menée par l'arrivée du grand Moctezuma, les grands caciques.
Caciques ?
Oui, les nobles. Ils le soutenaient par le bras sous le dé somptueux, en tissu de plumes de couleur verte, tout ouvragé d'or. Je lui ai offert un collier, mais je ne suis pas sûr qu'il ait compris mon geste. Je me suis avancé pour lui faire la collade, mais il a refusé. Je ne pense pas que ça soit dans leur coutume.
Quel est l'intérêt de cette rencontre avec le grand Moctezuma ?
Je compte avec mes 600 hommes faire tomber l'empire aztèque et m'approprier ses terres.
Merci de nous avoir reçus, ce fut un honneur.
Je vous en prie.
Nous sommes en mai 1521 et je me trouve actuellement à Tenochtitlan, qui est une ville assiégée par les Espagnols. Je m'apprête à interviewer l'empereur aztèque Moctezuma II.
Bonjour Moctezuma.
Bonjour. Comment vous sentez-vous depuis l'arrivée des Européens sur le sol aztèque ? Et le siège de la capitale de Tenochtitlan. Je regrette profondément de ne pas avoir su défendre mon peuple. Je me sens coupable. J'aurais dû anticiper, les repousser dès leur arrivée sur le territoire. Mais leurs peaux si pâles et les grands chevaux qu'ils domptaient me laissaient croire à une arrivée des dieux. Des dieux ? Mais comment avez-vous pu prendre pour des dieux ces colonisateurs responsables de l'effondrement de l'Empire aztèque ? Dans nos croyances, les visages pâles sont considérés comme des dieux. Alors, dès leur arrivée, j'ai mobilisé toute la population pour leur offrir des présents ornés d'or, les héberger chez eux, pour que mon peuple soit épargné de la misère. Ne pensez-vous pas que c'est la présentation de toutes ces richesses, l'or, l'argent ou le sucre, qui vont finalement pousser à commettre ces atrocités ? D'une part, je pense aussi que c'est notre naïveté qui a causé notre perte. J'aurais dû envoyer des hommes de confiance afin de vérifier leur identité, savoir pourquoi ils étaient sur nos terres. Toutes ces mesures qui nous auraient évité ce genre de catastrophe. D'autre part, si nous n'avions pas été en guerre, mais plutôt en paix, avec les autres peuples indiens, ils auraient pu nous aider à défendre notre village et nous les aurions vaincus. Hélas, si j'avais su que ces guerres auraient causé la perte de mon peuple et le siège de ma ville, en plus, il y a eu de nombreuses pertes. Près de 7% de la population a été décimée lors de ce siège. Il y a eu de nombreux pillages, dont votre temple et des viols. Êtes-vous inquiet pour le futur de votre peuple ? Oui, j'ai même très peur.
Moctezuma Seokultaki ! Ayuda, ayuda !
Au secours ! Il vient de se faire kidnapper. Vite, fuyons !
Voilà, vous êtes à l'écoute de Radio Campus avec les élèves du lycée Montebello de Lille pour la présentation de ces créations originales qui sont le fruit du travail réalisé au lycée. Et donc peut-être on peut demander parmi les participants ici une réaction, première réaction. Alors,
Sarah.
Impression à l'écoute de ça, Sarah. Comment tu as ressenti? Tu as écouté? Tu as participé? Le fait d'entendre ou de réentendre, ça te donne quelle impression?
Bah, comme vous l'avez dit, j'ai trouvé que c'était un projet original et assez humoristique de mettre, de faire une sorte de choc entre de deux époques, enfin même plusieurs époques différentes entre le présent et le passé. Donc j'ai trouvé ça amusant à entendre. Amusant à entendre. D'accord. Et voilà.
Voilà. D'autres remarques autour de la table? Oui.
Et grand merci surtout à Monsieur Duquesnois.
Ah oui.
Qui nous a vraiment entraînés.
À faire quoi?
À nous enregistrer.
Voilà, enregistrer.
Et à lire les textes, enfin nous aider à, oui, au niveau de la diction, à donner l'intonation qu'il fallait pour bien lire le texte. Voilà. Donc, merci à lui.
C'est vrai que c'est important, hein. Bien sûr, là, vous vous rendez compte de l'importance d'exprimer les choses clairement avec une jolie voix ou parfois un peu trafiquée. Hein. J'ai cru comprendre, vouloir, qu'on avait beaucoup dénaturé ta jolie voix.
Oui, comme les personnages, le journaliste et Moctezuma, c'était des hommes, je me suis dit que ça serait bien de trafiquer les voix pour les mettre un peu plus masculines, mais... C'était un peu bizarre, en fait.
Bon, c'est un essai. Hein. En même temps, on n'est pas des pros, hein, d'accord. Donc, ça, je trouve que c'était une belle tentative, en tout cas. Mais t'entendre en vrai, là, je suis impressionné de voir la qualité de ta voix. Je te conseille de continuer avec ta vraie voix pour d'autres productions. Voilà. Sinon, donc, au bout de ces... on va dire de ce travail de longue haleine. Maintenant, bon, on a diffusé les productions. Est-ce que vous seriez prêt dans une année future à refaire ce genre de choses? Si vous aviez des conseils à formuler peut-être à de futurs lycéens, ceux qui vont arriver peut-être en seconde l'année prochaine, est-ce que pour vous c'est une expérience positive? Je vous écoute sur ce sujet.
Oui, moi je pense que si les autres, les futurs secondes ont la possibilité de faire ce projet, je trouve ça intéressant quand même. Aujourd'hui, c'était la première fois que l'on découvrait une véritable radio. Donc je pense que ça peut être une expérience positive pour nous.
Oui.
Et pour la radio, les textes qu'on a faits, franchement, c'était super. Et le lycée Montebello a l'occasion de refaire ce projet-là, pour les prochains secondes, franchement, ceux qui le feront, lâchez-vous et essayez de vous approprier le personnage et vraiment pour faire dégager... de véritables émotions.
Voilà, peut-être aussi un conseil quant à moi, hein, c'est de démarrer la lecture à voix haute en début d'année, pas au moment où on commence les productions.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend plus trop à l'école.
Et je pense justement,
enfin, moi, peut-être.
Mon idée, c'est d'enregistrer les élèves à lire des textes d'histoire dès le début de l'année, c'est-à-dire au fil du cours. Quand quelqu'un lit, il viendra devant la classe debout, et je l'enregistrerai et on écoutera parfois pour commenter.
Et l'idée de ma professeure d'histoire, c'est une bonne idée parce que c'est dommage. On n'a pas du tout l'habitude, que ce soit au collège ou au lycée, d'intervenir devant les autres et parler, faire du théâtre, lire un texte. C'est vraiment quelque chose de non habituel et du coup, ça peut poser des problèmes parce que la première fois que je suis passée devant quelqu'un, c'était en histoire des arts et j'étais totalement tétanisée parce que j'avais peur de parler. Et oui, ça peut poser des barrières de ne pas savoir s'exprimer devant des gens. Donc oui, ce serait intéressant.
Je trouve que c'est une excellente expérience et le fait justement de s'exprimer, ça nous aide à nous entraîner pour le bac et aussi pour d'autres projets futurs qui nous aideront à... Enfin, on pourra mieux s'exprimer en s'entraînant et en passant comme ça à la radio et en s'entraînant et voilà.
Est-ce que vous avez eu l'impression, pendant ces moments où vous avez dû intervenir devant vos camarades, on va dire, quand vous avez enregistré avec du public un peu autour, hein, de vivre plus que d'habitude ou pas? Est-ce que vous avez eu l'impression de prendre plus de risques et de vivre la vie plus pleinement en vous mettant devant, comme ça, au devant de la scène?
Au début, on avait un peu honte de lire les textes devant le groupe. Mais je pense qu'à la fin, ça allait quand même, non ?
Ouais. Tout à fait. C'est quelque chose à dépasser et après c'est intégré, c'est ça ?
Oui. Ouais.
Voilà. Alors on va écouter peut-être encore une dernière réaction de Bouteflika.
Oui, je voulais donner mon avis sur le projet. C'était un projet qui n'en demeure pas moins essentiel et je l'ai trouvé important. Pour les personnes ayant du mal à s'exprimer devant toute leur classe, ça aide vraiment. Et je voudrais aussi remercier Monsieur Duquesnois, parce qu'il nous aidait bien à parler, et Madame Baudet aussi, parce que c'est grâce à elle qu'on vient à la radio et qu'il est sorti.
En tout cas, tu as bien progressé, ça c'est bien.
Oui, merci à Madame Baudet. Merci à Madame Baudet pour ce projet.
Catherine Baudet, donc on va conclure en musique. On va présenter Alexandre. Hein. Alors peut-être rappeler un peu le cadre de ce travail avec Alexandre.
On a découvert qu'Alexandre était DJ Sling en cours d'année.
Merci Madame pour cette belle présentation.
Excellent. Et donc on a découvert peu à peu ce qu'il faisait. Ça semble de qualité, enfin. Que beaucoup pensent.
Ouais. En espérant que ça plaise.
Oui.
Ouais.
Mais ça prend beaucoup de temps.
Oui, ça prend beaucoup de temps. Quand j'y mets beaucoup de cœur, puis ça prend sacrément de temps.
Alexandre, on te retrouve sous le nom des DJ Sling maintenant.
C'est ça, DJ Sling.
Donc on entend quelque chose d'intéressant là, c'est
DJ
Marcelo
et Sling.
Voilà. Et là, ce qu'on entend, la musique, c'est ta dernière composition. Tu peux mettre le casque si tu veux.
En exclusivité.
En exclusivité pour Radio Campus, en première mondiale.
Alors oui, donc ça c'est ma dernière production, c'est Horizon. C'est un style future house. Donc c'est beaucoup de voix avec du piano. C'est un style EDM, mais qui est vraiment très large à grand public.
Voilà, donc tu es le roi du mix maintenant.
J'aimerais bien peut-être un jour.
Mais oui, moi j'écoutais ce que tu fais. Peut-être qu'on peut présenter les sons que tu mets sur une plateforme. On peut les trouver peut-être aussi.
Oui, bien sûr, vous pouvez tout trouver sur SoundCloud. En téléchargement gratuit, tout est gratuit. Donc sur ma page SoundCloud, DJ Sling, tout est gratuit. Tous mes mix, vous pouvez tout vous procurer. Également une chaîne YouTube, DJ Sling, et Facebook, DJ Sling. Donc je peux les peler DJ DJ Sling SLING. Donc vous pouvez me trouver vraiment n'importe où.
Alors moi j'ai écouté tout ce que tu avais produit. C'est pour te dire que je suis sérieux quand je prépare mes émissions. Hein.
Je n'en doutais pas moi.
et j'ai trouvé que c'était de très grande qualité.
Je vous remercie.
Bon, au niveau style c'est ça, parfois encore plus raide.
Oui, parfois c'est beaucoup plus.
Ça tape, ça
c'est
cogne.
Ça, parfois c'est beaucoup plus agressif.
Mais les montages sont vraiment précis et c'est un super boulot vraiment.
Ah, je vous remercie.
Voilà, on se quitte donc avec DJ Sling.
Et merci.
Merci René.
Merci à toute l'équipe. Merci.
Merci.
De rien.
Et Catherine Baudet.
Grand merci.
J'allais dire à l'année prochaine.
Oui, je crois.
Voilà, c'était donc le lycée Montebello à l'honneur aujourd'hui, grâce à sa professeure d'histoire qui les a mis en piste, en scène et en radio. Écoutez Radio Campus 106,6 FM et DJ Sling. Horizon, une création mondiale sur Radio Campus en première. Alors ça, c'était Horizon, donc tu m'avais fourni, hein, je reviens à toi, DJ Sling,
oui.
Tu m'avais fourni il y a un mois pour voir un peu ce que tu faisais, ton univers,
oui.
Tu m'avais aussi mis sur ta plateforme, là, avec tes sons, d'accord.
Tout
et puis
fait.
Là, tu nous proposes aujourd'hui une autre compo qui s'appelle Sacrifice, ou Sacrifice, comme tu veux.
Tout à fait.
Vous avez le bon accent.
Alors, c'est un morceau Jingle Terror, c'est vraiment mon univers en réalité. Je fais beaucoup de Jingle Terror, c'est vraiment le style que j'aime bien. C'est un style très particulier qui mélange en fait des sons de jungle, des sons tribales, et c'est vraiment très très agressif dans le domaine de l'EDM, et c'est vraiment là-dedans que j'aimerais percer et peut-être devenir un grand DJ dans ce domaine.
Mais tu en es capable, tu peux me croire. Je veux bien.
Je vous remercie, j'aimerais bien.
Au revoir, merci. On a une minute pour écouter donc Sacrifice.
Merci.
Au revoir.